BFM Business. Check-up santé, au cœur de l'innovation santé. Fabien Guez.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-up santé. Les prestigieux invités aujourd'hui dans Check-up ne sont pas médecins et pourtant, vous le verrez, ils participent très concrètement à la santé de nos concitoyens. Le premier, c'est Clément Morel qui a créé une plateforme qui propose aux patients de s'auto-rééduquer physiquement avant, pendant ou après un problème de santé. Leur société s'appelle AxoMove. Le deuxième, Luc Solaire, préside la société Visible Patient. Il vient de remporter un des trophées de Check-up Santé. Son entreprise modélise des organes en 3D pour permettre aux chirurgiens d'intervenir plus facilement et surtout plus efficacement. Le troisième, Vincent Susplouglas, vient lui aussi de remporter un des trophées de Check-up Santé. Sa société Collective Thinking, spécialisée en IA, centralise et analyse l'ensemble des données santé pour améliorer le suivi des patients et la recherche clinique. Check-up Santé, c'est parti. Clément Morel, bonjour.
Bonjour Fabien.
Alors vous êtes passé par la prestigieuse école Schema School. Comment on passe de Saint-Maclou à AxoMove ?
Alors c'est une histoire d'amitié hein, au départ, parce que moi j'ai cofondé AxoMove avec un de mes anciens collègues de lycée, et je voulais me lancer dans l'entrepreneuriat après avoir fait 5 ans à la fois dans le consulting externe et dans le consulting interne.
Alors vous avez cofondé en 2017 AxoMove avec Boris Lévesque. Votre slogan c'est « Le médicament, c'est le mouvement ».
Oui, tout à fait. Donc nous, notre objectif au départ, c'est vraiment de pouvoir rendre accessible au plus grand nombre les bienfaits des exercices thérapeutiques. Donc quand on parle du mouvement, c'est vraiment l'activité physique adaptée. On n'est pas dans du sport, mais c'est vraiment des exercices qui vont permettre de soulager les douleurs dans le cadre d'une rééducation ou en prévention de problèmes musculo-articulaires.
C'est vrai que les gens confondent souvent sport et activité physique. On n'est pas obligé de faire du 110 mètres haies ou du saut à la perche pour améliorer sa santé, ses performances et son plaisir. Vous avez donc créé une plateforme e-santé de prévention et de rééducation en santé physique. C'est pas une plateforme de fitness, justement.
Non, pas du tout. Donc c'est vraiment, ça s'adresse à des personnes qui sont pathologiques, hein, qui sont suivies dans le cadre de soins de rééducation.
Ce sont des exercices thérapeutiques,
oui, en quelque sorte. Oui, tout à fait. Dans les centres de rééducation. Donc ça peut être pour des problèmes musculo-articulaires, mais aussi neurologiques, que ça soit aigu ou chronique, comme par exemple Parkinson, la sclérose en plaques ou des lombalgies chroniques.
D'accord, donc vous intervenez sur pas mal de domaines thérapeutiques d'ailleurs.
Oui, dans l'ensemble des domaines thérapeutiques qu'on peut trouver en centre de soins de suite et de réadaptation. Donc c'est vraiment une plateforme qui est multipathologie et qui va permettre de programmer de manière personnalisée des programmes d'auto-rééducation au patient en fonction de sa pathologie et de son stade de rééducation.
Alors le concept, c'est quand même l'autonomie de vos patients grâce à l'auto-rééducation, c'est bien ça ?
C'est ça. Donc c'est vraiment une plateforme qui a deux facettes. Il y a la facette praticien, donc ça va être les praticiens, que ce soit des kinésithérapeutes, des médecins en médecine physique et de réadaptation, des ergothérapeutes, qui vont concevoir donc des programmes, ce qu'on appelle d'auto-rééducation, avec un format vidéo didactique qui va permettre au patient, une fois rentré chez lui, d'exécuter ses programmes en autonomie de manière asynchrone. Et la particularité, c'est que le praticien peut suivre l'observance du patient à sa prescription d'exercice, d'accord, à son traitement d'auto-rééducation.
Il le suit de quelle façon ? Il a quelques critères qu'il va suivre ?
Oui, donc tout à fait. Il voit vraiment si le patient a été actif, est-ce qu'il allait jusqu'au bout de son programme ou pas. Donc vraiment le pourcentage d'observance de la réalisation de la séance d'exercice en autonomie. Mais il a aussi des indicateurs de difficulté du programme. Si le patient a une difficulté à réaliser un exercice, il peut l'indiquer à son praticien. Ou si ça dépasse un certain niveau de douleur sur une échelle de 0 à 10, ça permet de générer une alerte pour le praticien. Et donc le praticien peut ajuster à distance le programme en fonction des problématiques du patient.
Ce qui veut dire qu'il y a un système de messagerie sur votre plateforme ?
Également, oui, il y a une messagerie patient-praticien qui permet de dialoguer entre les deux et de renforcer finalement le lien entre soignant et soigné.
Et vous pouvez aussi, c'est un autre service, hein, faire ce qu'on appelle des séances de télé-réadaptation en visio, c'est ça, non ?
Oui, donc ça c'est une autre brique technologique de AxoMove Thérapie, hein, solution service, c'est ça, qui permet de faire, on connaît tous la téléconsultation one-to-one, hein, avec un thérapeute et un soignant. Là, la solution va permettre aussi de faire des séances d'exercice à plusieurs. Donc on va avoir un thérapeute, par exemple un enseignant en activité physique adaptée, qui va animer une séance d'exercice thérapeutique de groupe avec plusieurs patients qui sont à distance. Donc ça permet vraiment de proposer des prises en charge innovantes.
Interactif, vraiment interactif.
Voilà, là on est vraiment pour le coup en temps réel.
Alors vous êtes, j'imagine que vous êtes présent dans les structures de soins, structures de santé.
Oui.
Et aussi chez le patient.
C'est ça. Donc nous en fait on commercialise notre solution auprès d'établissements de santé, publics et privés, plus particulièrement les centres de soins de suite et de réadaptation. Et derrière, on permet donc aux patients d'être pris en charge à domicile. Et donc de maintenir le patient à domicile suite à une sortie d'hospitalisation ou aussi en hôpital de jour.
D'accord. Et donc vous êtes très présent, j'imagine, dans toutes les structures de santé. Comme vous disiez, vous en avez beaucoup déjà depuis 2017.
Oui, aujourd'hui, on est présent dans une cinquantaine d'établissements sur toute la France.
Alors, vos services, évidemment, vous les donner aux praticiens, aux patients, je veux dire, et puis structures de santé, mais aussi, vous avez aussi une autre action qu'on appelle peut-être AxoMove Prévention, c'est ça ?
C'est ça.
Pour les assurances, pour les entreprises ?
Tout à fait. Donc ça, c'est une seconde offre qu'on a développée en 2020, suite au Covid notamment, qui est une offre de prévention. Donc c'est comme une clinique digitale qui permet de prévenir les troubles musculo-squelettiques auprès de salariés d'entreprise ou auprès d'assurés, de compagnies d'assurance ou de mutuelles. Donc la différence avec le service dont on vient de parler en centre de soins, là ça va s'adresser à des personnes qui ne sont pas pathologiques, on est en prévention primaire, secondaire, c'est-à-dire qu'on commence à avoir des douleurs mais on n'a pas encore basculé du côté pathologique et on a accès...
Pour définir la différence entre prévention primaire et secondaire, prévention primaire c'est avant un accident, par exemple avant un infarctus, avant un accident aigu, et prévention secondaire évidemment c'est après.
C'est ça. Et donc par rapport à ça, on permet aussi un accompagnement par des kinésithérapeutes qui sont salariés d'AxoMove. Donc on a une thérapie digitale de prévention des troubles musculo-squelettiques et un accompagnement humain par des professionnels de santé. C'est pas qu'une application, on a vraiment les deux et ça permet voilà de réduire le risque TMS en entreprise.
Tout ça c'est sur la même plateforme.
Oui, tout à fait.
Alors justement, il y a un business quand même modèle.
Complètement.
Comment gagnez-vous de l'argent ?
Alors,
on est sur BFM Business.
Oui, oui, bien entendu. Par rapport à ça, nous, on suit un business model B2B2C. Donc, oui. Nos clients sont d'un côté les établissements de santé qui vont payer un abonnement AxoMove pour avoir accès aux services pour leurs praticiens et leurs patients. Okay. Ça, c'est le premier business model sur l'offre qu'on appelle, nous, AxoMove Thérapie. Et le deuxième business model, c'est AxoMove Self-Care ou AxoMove Prévention, oui. Où là, on vend un abonnement, soit à l'entreprise, où on a aussi des assureurs qui incluent dans leur contrat d'assurance directement le service AxoMove au bénéfice de leurs assurés.
Très bien, merci beaucoup Clément Meurel, merci patron de AxoMove. On va à présent accueillir Luc Solaire, président de Visible Patient.
BFM Business, check-up santé, au cœur de l'innovation santé.
Luc Solaire, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de Visible Patient, vous avez, on peut dire, un parcours assez extraordinaire. Vous êtes quasiment, je crois, le seul non-médecin à être membre de l'Académie française de chirurgie.
Alors, je ne pense pas être le seul, mais c'est vrai que...
Il faut quand même
avec
en général
être
chirurgien quand même pour faire partie de l'Académie de chirurgie. Depuis longtemps, non ?
Depuis 2019.
Ah oui, d'accord. Pour service rendu, c'est ça, au monde de la chirurgie ?
Pour l'ensemble des publications scientifiques et tous les travaux qu'on a pu réaliser.
Alors vous avez été effectivement directeur scientifique de l'IHU de Strasbourg, qui est l'institut de chirurgie guidé par l'image, directeur scientifique de l'IRCAD aussi, pendant de nombreuses années. Tout d'abord, bravo pour votre trophée Check-up Santé,
merci.
La semaine dernière, amplement mérité. Donc vous êtes le premier laboratoire en ligne de modélisation 3D d'images médicales, c'est ça ?
Tout à fait.
Et vous êtes déjà présent dans 22 pays ?
On est distribué par notre partenaire Johnson & Johnson dans 22 pays dans le monde actuellement. On a une certification pour 30 pays, donc ça va continuer à s'étendre progressivement. On fait par étapes, bien sûr, pour pouvoir fournir le plus grand nombre de chirurgiens avec notre service.
Alors en fait, le concept, c'est que vous allez modéliser donc un organe à partir d'images scanner ou IRM, c'est ça ?
C'est ça, en fait. Le médecin nous envoie le scanner ou l'IRM du patient, qui contient en fait à l'intérieur l'organe et les structures vasculaires autour. Faut pas oublier qu'en fait le plus important c'est d'ailleurs surtout les structures vasculaires, parce que le chirurgien lui en fait ce qu'il va devoir faire c'est couper les branches et garder la partie saine, et la partie qu'il doit garder doit absolument être bien vascularisée.
Mais alors donc ça aide le chirurgien évidemment dans sa stratégie de opératoire, c'est ça?
Tout à fait, en fait.
Avant et pendant?
Alors avant, il va pouvoir préparer son acte, un peu comme quand on veut partir en vacances, on va aller sur son ordinateur, on va regarder quelle route on va prendre. Ben là, c'est pareil, on a la cartographie en 3D du patient, on va choisir la stratégie. Et pendant, il va réutiliser l'image en 3D pour se repérer, soit sur son smartphone, soit carrément avec un casque de réalité augmentée comme le casque HoloLens.
Donc les étudiants aussi pourraient finalement se former avec votre...
Ah, les étudiants se forment, mais
c'est déjà le cas, non, ou pas?
Oui, mes étudiants, notamment, qui viennent en stage chez moi, sont formés avec le logiciel. Et puis, les internes qui sont dans ces services profitent du bénéfice d'avoir cette anatomie personnalisée. C'est beaucoup plus facile de comprendre ce que l'on va faire quand on a l'anatomie en 3D, évidemment, qu'uniquement en regardant la peau du patient.
D'ailleurs, je dis toujours qu'il faudrait enlever 2 années d'études de médecine. On apprend beaucoup plus vite et mieux qu'à mon époque, on est obligé de lire... un dessin d'anatomie sur le fameux Rouvière.
Donc, en tout cas, une chose est sûre, c'est que l'outil accélère très grandement la compréhension de l'anatomopathologie, puisque c'est de ça dont il s'agit, et permet du coup, pendant une intervention, d'être plus précis et d'éviter des erreurs d'ailleurs de choix thérapeutiques.
Bien sûr. D'ailleurs, justement, on parle de VP planning. C'est bien ça. Donc,
tout à fait.
Voilà, c'est votre technique qui va aider à enlever un territoire peut-être qu'on n'aurait pas pu... opérer avant si vous n'avez pas pu cette modélisation, si vous n'avez pas eu cette modélisation.
Tout à fait, en fait, pour prendre un exemple simple. Pour moi, la chirurgie, c'est couper un arbre. Quand vous avez dans une ville un arbre malade, on coupe l'arbre, on le remplace, c'est une transplantation. Quand c'est l'arbre de votre maison, vous allez couper que la branche malade. Mais la question, c'est qu'est-ce qui va rester de l'arbre? Est-ce que j'aurai assez d'ombrage? Dans le patient, c'est pareil. Si on doit couper un morceau, avec le logiciel, on va avoir la simulation du territoire restant qui reste fonctionnel. On a donc la volumétrie précise. Et c'est ça qui permet, grâce à ce logiciel VP Planning, de savoir si le patient est opérable ou non.
Vous avez des exemples d'ailleurs, pour des enfants, d'enfants qui n'étaient pas opérables. Et finalement, grâce à votre modélisation, vous pouvez les opérer et éviter d'ailleurs une transplantation, c'est ça?
Oui, alors... Il faut dire que Visible Patient est le seul logiciel certifié spécifiquement pour la chirurgie pédiatrique. Donc déjà, ça, c'est une particularité. Et en effet, on a des très très beaux exemples. Alors, l'exemple que vous citez, c'est cet enfant de 5 ans qui avait une tumeur dans chacun des reins. Sans le logiciel, il avait obligatoirement une transplantation rénale après 6 mois de dialyse. Avec le logiciel, on a pu trouver un chemin différent. Il a eu une résection, une découpe partielle de ses reins. Il a évité et la dialyse et la transplantation.
Ça lui a permis de garder son rein et d'éviter une greffe avec tout ce qu'il
a. Il a gardé ses deux reins.
Coup, les immunosuppresseurs et compagnie. Vous modélisez tous les organes?
Tous les organes.
Même les organes mobiles?
Oui.
Je parle du cœur?
Oui. Alors, l'année dernière, par exemple, on a gagné un prix, le prix qui s'appelle les talons de la e-santé, dans la catégorie e-santé.
Donc vous gagnez sur... tous les ans, quoi, si j'ai bien compris.
Presque. C'était avec Mécénat Chirurgie Cardiaque, une association qui fait venir des enfants du monde entier pour être opérés en France. Et en fait, on leur a développé pour eux une modélisation spécifique pour des pathologies qu'on appelle les apsos, qui sont des variations. Et puis, depuis cette année, on fait aussi les VDDI, donc les ventricules à double issue, qui sont des pathologies complexes, aussi très difficiles à opérer. Et ça apporte un énorme bénéfice dans la décision thérapeutique.
D'accord, mais c'est une image quand même, une modélisation, mais statique, pas dynamique pour
l'instant. Elle est statique. C'est-à-dire que ce que
on peut imaginer dans le futur une modélisation dynamique ou pas?
Oui, alors... Ce qu'il faut dire, c'est que nous, on fournit le modèle. Ensuite, on peut lui donner vie à ce modèle. Et l'exemple toujours du GPS, la carte, elle est statique. Par contre, le trafic, lui, est dynamique. Nous, on fournit la carte. Le trafic, ce sont des partenaires, comme par exemple Insimo, qui est une société, une start-up qui développe des simulateurs, qui va rajouter du dynamique dans cette image statique.
Alors, vous avez des data, des données santé qui sont stockées et gérées, qui sont sécurisées par
Docapost,
c'est ça?
Tout à fait.
Et vous disiez que, quand on en a discuté hier, que les données appartenaient aux patients.
Les données appartiennent aux patients. Oui. Le patient est propriétaire de son image, et évidemment donc de ses données. Okay. Ces données, on lui demande, avant de faire la modélisation, s'il nous permettra de les réutiliser pour améliorer nos logiciels. Et donc, plus de 75% des patients valident cet usage, sachant que ces données sont anonymisées pour, de façon à faire
sorte que les... Sans comprendre pourquoi 25% refusent.
Bon, bah,
les voies impénétrables de l'être humain. Donc, c'est un vrai dispositif médical.
C'est un dispositif médical de classe 2A qui est certifié dans 30 pays dans le monde. Ça aussi, c'est pas simple d'obtenir des certifications dans tous les pays comme
Avec les réglementations différentes.
Oui, qui varient énormément. Alors, en Europe, on a une réglementation pour toute l'Europe. Mais même en Europe, il faut savoir que quand vous avez un marquage pour l'Europe, ça veut pas dire pour autant que vous avez le droit d'utiliser le logiciel. Par exemple, si le logiciel n'est pas traduit en français, on n'a pas le droit de l'utiliser en France.
D'accord. Et donc là, c'est compliqué. Le logiciel marche dans plusieurs langues ou
Il est disponible dans plus de 22 langues aujourd'hui.
D'accord, puisqu'il y a 22 pays, 22 langues peut-être.
Quasiment, d'accord,
en fait. Peut-être plus plusieurs langues pour la Suisse, la Belgique.
La Suisse a trois langues.
Pardon ?
La Suisse a trois langues.
La Suisse a trois langues, c'est vrai. Donc, votre business model, alors, c'est quoi ? C'est c'est un forfait ? Vous travaillez donc avec des structures, avec des chirurgiens, avec.
Alors. Déjà, on a un partenariat avec Johnson & Johnson, c'est eux qui distribuent. Et le modèle, c'est on vend en fait à l'acte la modélisation 3D. C'est une analyse comme une analyse de sang qui est fournie et on paye à l'acte. Et ensuite, on peut, grâce
à
notre partenariat...
Qui paye ? C'est le chirurgien qui demande ? C'est l'hôpital ?
C'est l'hôpital qui paye, sauf si le patient est couvert par son assurance ou sa mutuelle santé, puisqu'on a signé avec pas mal d'assureurs et de mutuelles santé une couverture à 100%. Pour leurs clients. Et de ce fait, pour eux, en fait, c'est pris en charge par leurs assurances directement.
Ah oui, vu le bénéfice et vu les économies, en fait.
Les économies sont très importantes.
Ça génère quand le post-opératoire est plus rapide, le traitement est plus efficace, non, l'acte est plus efficace.
Alors, on gagne au minimum une demi-heure de temps opératoire. On gagne très souvent sur un retour plus rapide à la maison. On gagne aussi sur moins de complications post-opératoires.
Ça fait combien depuis 6 ans, combien de modélisations ?
Bon, depuis 6 ans, plus de 20 000. Après, plus de 20 000. Mmh. Et on ne fait qu'augmenter, en fait. Hein, sur le premier trimestre, par exemple, les chiffres du premier trimestre, c'est plus 120% par rapport aux chiffres du premier trimestre de l'année dernière. Donc, ça ne fait que croître.
Oui, les progrès en IA, en intelligence artificielle, vous aident ? Est-ce que ça vous aide pour améliorer
vos logiciels ? Alors ça, c'est le cœur de notre modèle économique. C'est que plus on a de données... Plus on enseigne à nos algorithmes à travailler. On a 28 brevets en algorithmes d'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, oui, on gagne un temps fou. On a fait des tests il y a 2 semaines. On arrive maintenant en seulement 2 minutes 30 avec les dernières cartes spécialisées à faire des reconstructions 3D. Parce qu'on faisait en 4 heures avant.
Ah oui, d'accord.
Donc c'est un gain énorme.
Eh bien, bravo. Donc, trophée bien mérité. Merci beaucoup, Luc Seller. On va à présent accueillir Vincent Susplugas, CEO de Collective Thinking.
BFM Business, Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé.
Vincent Susplugas, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans Check-up Santé et surtout bravo pour votre trophée de Check-up Santé la semaine dernière.
Merci à vous.
Mérité, mais j'ai quand même insisté avec le jury, j'ai même payé, j'ai envoyé un chèque. Donc vous êtes passé par des petites écoles quand même, hein. Vous avez fait Polytechnique, vous avez fait l'ENSAE, vous êtes baladé dans quelques ministères... je crois d'économie, non ? De l'économie ?
Exactement, exactement.
Et vous dirigez donc Collective Thinking depuis 2013. Collective Thinking, en gros, c'est l'analyse de la pensée collective.
Oui. Alors ça, c'est le point de départ de Collective Thinking, voilà. Donc effectivement, il y a deux Collective Thinking. Il y a une première start-up, en gros, qui est ma première aventure entrepreneuriale.
Française,
tout à fait.
Souligne.
Ouais. Française, et qui consistait à analyser la pensée collective, donc la somme des opinions, des expressions de pensée, grâce à des algorithmes. Et donc ça a duré, en gros, jusqu'en 2016. Et donc le Collective Thinking d'aujourd'hui, qui est vraiment dédié à la santé, c'est vraiment 2016. Voilà.
Alors, votre société, donc, je répète, française, est spécialisée en intelligence artificielle et en analyse sémantique dans le secteur de la santé, c'est bien ça ?
Exactement.
Donc, vous aidez de l'intelligence artificielle toujours plus performante, associée à des datas en santé qu'on a, évidemment, de plus en plus, c'est ça, pour après, donc, analyser toutes ces données facilement et puis gérer un petit peu la vie du patient.
Voilà, donc en fait, en très gros, donc on a bâti une plateforme qu'on a appelée Intelligence for Health, bon, toujours en anglais, voilà, mais c'est, on espère du coup, et on se développe à l'international, donc on a essayé tout de suite d'avoir quand même cette dimension-là. Et donc on a une capacité, en gros, de compréhension d'énormément de caractéristiques cliniques des patients en l'espace de quelques centaines de millisecondes, à quelques secondes pour les cas les plus complexes, grâce à une dizaine d'intelligences artificielles qui sont vraiment spécialisées sur différents types d'analyses de tout ce qu'on appelle les données de vie réelle. Donc c'est vraiment les comptes rendus hospitaliers, opératoire, d'imagerie, des données de biologie.
Donc ça, il faut que ça vienne déjà du praticien qui va implémenter, c'est ça, toutes ces
voilà, donc on se connecte exactement, on se connecte du coup dans les univers hospitaliers. Hein, voilà, toutes les données restent bien sûr dans les hôpitaux, donc on est dans la bulle sécurisée avec évidemment du coup un cadre extrêmement avancé d'un point de vue réglementaire pour assurer une protection des données de santé maximale. Ça, c'est évident. Et donc dans ce cadre-là, du coup, on bâtit cette compréhension qui va servir à la fois à la recherche clinique, au codage médical et à la qualité et au parcours de soins.
Voilà. Alors, quand je disais ça vient des médecins, pas que des médecins.
Non,
voilà. Ça peut être le labo, ça peut être...
Exactement, oui. Exactement. Donc, il y a effectivement des infirmiers. Alors, c'est aussi un des challenges. Mm-hmm. Tous ces gens-là ont très peu de temps. Et donc, ils vont marquer juste avec quelques abréviations, voilà, ESC++++ pour dire que le patient voilà, avait un bras avec quelques nécroses, etc. Enfin, il y a énormément de jargon dans cet univers et c'est forcément un challenge technologique supplémentaire.
D'accord. Donc, avant de parler de recherche clinique, donc, tout ça, ça va permettre donc, à vos algorithmes de sortir des choses concrètes qui vont aider le praticien, c'est bien ça, et évidemment le patient.
Exactement.
Un exemple concret.
Alors, un exemple concret, par exemple, sur la recherche, on va avoir un projet donc sur le cancer du poumon, par exemple, et on va être capable, du coup, d'identifier tout un ensemble de caractéristiques patients qui vont permettre, du coup, d'inclure des patients dans des essais cliniques. Donc, l'enjeu aujourd'hui, c'est qu'on a, quand on regarde, 55% des essais cliniques qui sont arrêtés, non pas parce que le médicament n'est pas suffisamment efficace ou parce qu'il aurait des effets indésirables, ça ne représente que 26% des causes d'arrêt d'essais cliniques, mais uniquement parce qu'en fait, on ne parvient pas à inclure suffisamment de patients. Donc ça, il y a un enjeu qui est humainement
colossal. Parce qu'il y a toujours des carcans réglementaires aussi.
Il y a des carcans réglementaires, mais qui ont du coup... Qui freinent, mais qui effectivement permettent aussi de protéger voilà, la confidentialité des données. Donc voilà, c'est comme ça. Effectivement, on peut se dire, d'un certain côté, c'est un débat qui est assez délicat, parce que d'un côté, on a l'impression qu'on pourrait sauver plus de vies, forcément, si on avait cette possibilité d'aller plus vite. Mais en même temps, il y a un cadre qui doit être respecté. Et donc, je crois que de toute façon, la CNIL travaille beaucoup sur des méthodologies de référence qui permettront et qui permettent déjà de concilier ces deux enjeux. Mais voilà, il y a en tout cas un très très bel enjeu nous qui nous motive vraiment au quotidien, qui est de répondre concrètement à cette un petit peu cette frustration, voilà, cette frustration,
ce gâchis. Il y a un côté prédictif, non, aussi, ou pas? Il y a un côté prédictif
tout à partir
des données que vous analysez, que vous ressortez, oui.
Oui, tout à fait.
Sur les pathologies. Alors la deuxième voie, c'est le deuxième axe, c'est la recherche clinique. C'est bien ça.
Exactement.
J'en avais déjà parlé, mais
exactement. Donc deuxième axe sur la recherche clinique. Donc le premier, effectivement, donc il y a un axe sur le codage médical, donc où on va effectivement identifier automatiquement tout un ensemble de pathologies pour les patients et du coup redonner du temps à la médecine parce qu'on va automatiser un travail qui doit être fait. Et de l'autre, effectivement, la recherche clinique qui est vraiment, on a plusieurs enjeux sur ce sujet. Il y a le sujet prédictif dont vous parliez, hein, c'est comment est-ce qu'on va améliorer l'identification de facteurs explicatifs. Il y a le volet inclusion dans les essais cliniques qui nous motive particulièrement parce que du coup il y a des équipes dans le monde entier qui vont se mobiliser pour développer des nouveaux traitements, sauver des vies, des millions de vies, hein, souvent, hein, sur des traitements contre le cancer, par exemple. Et en fait, tout ça s'arrête de manière un peu frustrante sur l'incapacité à inclure suffisamment de patients, alors que justement, si on avait plus de patients informés des essais cliniques, on sauverait tout de suite plus de patients, et ensuite on permettrait à plus de traitements d'exister. Voilà, donc on sauverait doublement plus de vies. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous anime, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de motivation, beaucoup d'énergie au quotidien sur l'ensemble de l'équipe. Voilà.
Alors, on va parler d'internationalisation, mais vous êtes déjà très présent. Votre boîte a 10 ans déjà.
Oui, tout à fait. Voilà. Donc le collective thinking d'aujourd'hui date de 2016, mais effectivement, il y avait un collective thinking d'avant.
Et vous êtes déjà très présent en France.
On est très présent en France dans plus de 100 établissements. Effectivement, on est en train de passer le seuil des 150 du coup sur l'année à partir des établissements qu'on est en train de déployer.
Privé,
un peu des deux, voilà. Ouais. Et on est déjà présent en Suisse également et en Allemagne. Voilà.
D'accord. Et donc, l'avenir de votre société, c'est évidemment l'internationalisation, non?
Oui, tout à fait.
Puisque la clinique, elle peut être internationale.
Voilà, effectivement, sur le volet recherche clinique, c'est toujours un plus, bien qu'il y ait déjà des projets qui puissent avoir vraiment un sens au niveau national. Et donc, oui, bien sûr, c'est un sujet très important pour nous. C'est pour ça qu'on a investi depuis plusieurs années sur ce volet.
Votre siège, vous êtes situé à Paris?
Exactement.
Oui, vous avez pas mal de collaborateurs.
Oui, bon, on est entre 15 et 20, donc voilà, ça reste une équipe qui fait beaucoup, voilà, quand on voit le résultat accompli.
Ouais, et donc, est-ce que là aussi, on a beaucoup parlé aujourd'hui d'intelligence artificielle, donc vous, évidemment, c'est votre substrat, évidemment, vous sentez, comment vous voyez l'avenir très rapidement?
Alors, sur l'intelligence artificielle, je pense qu'en santé, il y a une rupture qui est vraiment à tous les niveaux de la santé. C'est-à-dire que quand on regarde la recherche, toutes les étapes de la recherche sont en cours de changement rapide. On identifie au tout début de la recherche fondamentale, des molécules qui ont beaucoup plus de probabilité d'impact. Ensuite, on va réaliser, comme nous, on se positionne là-dessus, sur des essais cliniques de manière beaucoup plus rapide et efficace. Donc, toute la recherche, on va avoir concrètement beaucoup plus de traitements, beaucoup plus de molécules, beaucoup plus d'innovations qui vont concrètement arriver dans les 10, 20, 30 prochaines années grâce aux algorithmes. Et ensuite, il y a tout l'aspect clinique qui est aussi essentiel. Donc, effectivement, vous aviez demandé si on travaille aussi sur le prédictif. Donc, il y a tout ce qui est médecine personnalisée, prédictive, préventive. Et on travaille sur ce sujet dans deux aires thérapeutiques que sont les traumas crâniens et l'oncologie. Et là, on a vraiment une capacité à améliorer du coup le diagnostic, à essayer d'identifier plus tôt les choses et aller vers des diagnostics plus personnalisés, voilà, en assistance, bien sûr, des médecins.
Et toujours dans l'intérêt du patient.
Oui, voilà.
Merci beaucoup, Vincent Suspugas.
Voilà, tout à fait.
C'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine.